Est-ce que c'était mieux avant? Pas sûr. Est-ce que ce sera mieux après? C'est de moins en moins sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est mieux maintenant, car c'est CMA qui commence. Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, on regarde dans le rétroviseur avec des chroniqueurs et des chroniqueuses qui réfléchissent. Voici le sommaire de la première partie de CMA. Est-ce que les cons servent ? Eh bien, on va le savoir ce soir avec toi, Florian. De quoi parle-t-on ?
Alors, je vous parle de la conservation des aliments.
Ah, bien.
Voilà, vous aurez tout sur comment on fait pour conserver les aliments.
Et d'où l'origine de la conservation, les premiers conservateurs qu'on aura.
Bon. Oui.
Très bien. Pâques est passé, mais des œufs sont encore cachés. Tu nous les fais découvrir ce soir, Olivier, c'est ça ?
Oui, je parle encore des œufs de Pâques, mais dans le cinéma et dans les jeux vidéo.
Ah, ok, il y a des œufs de Pâques dans les jeux vidéo. Oui. D'accord, ok. Faire ses courses est pour beaucoup une galère, mais avec des enfants, on est proche du burn-out. On va voir pourquoi avec toi, Pauline, c'est ça ?
Ben oui, la crise au milieu du supermarché qui ne l'a pas vécu. Donc tout ça, c'est fini. Restez bien avec nous. Je vais expliquer pourquoi.
Ah d'accord, on peut éviter ça.
Qui ne l'a pas vécu ou qui ne l'a pas fait ?
Oui, la crise, oui, c'est vrai que nous, je vais être dans le chariot, enfin, on verra ça tout à l'heure. Ok. Et puis après le retour réussi du Soso Show lors de la dernière émission, eh bien, elle reviendra avec nous ce soir. Hein, ce sera évidemment Sonia. Et si on ajoute un Graal qui ce soir nous parle des premiers habitants de France, eh bien, on aura une première partie bien remplie. Mais la seconde sera tout aussi passionnante puisqu'on pourra parler épicé, mais pas en même temps. Et on ira aux vêpres également, vous verrez. Mais pour l'instant, il est temps de commencer. Voici la première partie de CMA. Éternellement frais, il n'a pas de limite de date de consommation. À l'heure où les cons servent, il se met à table. Voici la chronique surgelée de Florian.
En ouvrant les portes de mon frigo, il y a des aliments très rigolos. Plein de bonnes choses pour la santé, je vais toutes les manger.
C'est mignon ?
Wow.
Mignonnet.
Oh, c'est mignonnet.
C'est beau.
Voilà.
Bon, t'as cité pas mal de choses de ma chronique déjà.
J'ai dit quoi ? J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit.
Certains modes de conservation.
Que les conserves, c'est tout.
Oui. Alors, à votre avis, pourquoi déjà on conserve les aliments ?
Oh, la question con.
Bah non, parce que...
je sais pas. Pourquoi on conserve ? Je sais pas.
Pour manger plus tard.
Pour manger plus tard, voilà. Parce que quand il fait pas beau, qu'on puisse quand même manger.
Pour garder les valeurs nutritives des aliments.
Aussi, effectivement.
Oui. Pour éviter
en
que...
En cas de guerre.
C'est d'actualité. Surtout qu'on, ou qu'il n'y ait pas de virus dedans ou de bactéries pour ne pas être malade.
Oui. Aussi. Alors, c'est un peu tout ça, effectivement. Enfin, déjà, on les garde pour qu'ils restent comestibles. Enfin, on les conserve pour que ça reste comestible. On a des techniques de conservation pour que les aliments puissent être mangés plus tard, sans risque pour la santé, et notamment d'intoxication alimentaire, notamment. Et... aussi, on les garde pour, enfin, on les conserve pour garder les propriétés gustatives et nutritives aussi, parce que il peut avoir du goût, mais finalement ne plus être bénéfique pour le corps.
D'accord.
Voilà. Et puis, on les garde aussi pour préparer d'éventuelles périodes de famine ou de disette. Alors, c'était à l'époque, mais effectivement, aujourd'hui, on fait aussi des stocks. Souvent, on a vu avec le Covid, hein, les stocks de pâtes, notamment.
Mais de papier toilette, mais ça, et, ça a mangé, c'est pas terrible.
Et ça revient encore. Hein. Les pâtes, il y a encore des rayons aujourd'hui où les pâtes sont moins présentes. Bah oui, parce que le monde tourne
bizarrement. Bah oui, ils disent le blé va augmenter. Oui. Il y a
en
ça
plus,
aussi.
Voilà. On les achète à prix bas aujourd'hui pour...
Surtout que c'est cher les pâtes, oh là là.
C'est cher, mais ça va augmenter beaucoup. Voilà, et donc la conservation, en fait, elle consiste à arrêter le processus, en fait, de désintégration de l'aliment, qui est dû aux bactéries, plein de sortes de bactéries, en fait, qui sont naturellement présentes dans l'aliment, ou qui arrivent après, mais on fait en sorte de bloquer, en fait, ce processus de dénaturation.
D'accord.
Puisque ces petites bactéries... elles ont besoin de nourriture, donc l'aliment en lui-même, d'eau, de chaleur et d'oxygène. Donc la conservation, les techniques de conservation, en fait, elles agissent sur ces quatre points-là, soit sur une, soit sur toutes, soit sur plusieurs. Et donc dans l'histoire, on a toujours essayé de trouver des techniques pour les conserver. Alors à votre avis, il y a quoi comme technique de conservation Des aliments.
On peut te le dire sans que tu nous dises qu'on te fasse ta chronique ou... Parce que je vais me faire engueuler après, moi.
Il y avait le sel.
Oui, ouais. Le sel, déjà.
Lyophilisation.
Alors, le sel, lyophilisation, donc c'est l'assèchement en fait, de l'aliment. Donc, on retire l'eau, effectivement. Pour...
Et donc, du coup, c'est un peu le sel aussi, puisque c'était ça, le rôle du sel aussi.
Non. Oui, mais en tout cas, oui, mais c'est pas la même technique.
Il y a, quand même. Il y a un frigo. Il y a
le froid, ouais, la surgelée.
Bon, il y a plein de trucs. Bon, je vais vous les dire parce que j'ai quand même ma chronique.
Oui, voilà, c'est ça. Toi, tu nous demandes. Alors nous, on te dit. Hein.
Alors, les toutes premières techniques dans l'histoire, en fait, ça a été le séchage, justement, pour retirer l'eau, donc la viande séchée ou le poisson séché. Hein, on connaît la morue, par exemple.
On sèche au
soleil.
On la connaît bien, Martine.
Le séchage, le fumage aussi.
Hein,
donc,
c'est pour sécher aussi.
Ça fait partie de la déshydratation. Donc on retire l'eau. Donc, on empêche les bactéries de l'aliment d'utiliser l'eau en fait, pour se reproduire. Donc, on bloque, en fait.
Mais en plus, ça cuit aussi un peu. Le fumage, non, ça cuit pas.
Alors, non.
Si ça cuit, ça va tuer également les aliments, ça va tuer les bactéries.
Bah, si ça cuit, parce que la viande séchée, tu peux la manger comme ça, en fait. Donc, c'est une sorte de cuisson quand même.
D'accord.
Mais c'est plus fait pour conserver que pour cuire l'aliment. Ensuite, donc, le séchage, le fumage, on a la conservation par le froid aussi, puisque les pays où il faisait froid, les Inuits, ils faisaient comment? Ils mettaient dans la glace ou dans des lacs gelés.
D'accord.
Et donc, ça conservait. L'aliment. Donc, par le froid, il y a plusieurs techniques. Il y a la réfrigération. Donc ça, c'est le fameux réfrigérateur, où les aliments sont conservés entre 4 et 8 degrés. Il y a la congélation, où les aliments sont conservés entre 0 et moins 18. Mm-hmm. Et il y a la surgélation, donc les surgelés, où les aliments sont conservés à des températures qui sont plus basses.
Mais alors, dans notre frigo, c'est quoi dans notre congélateur?
Jusqu'à moins 35, la surgélation.
Ah oui, c'est pour la préparation, mais après, une fois qu'on a dans notre frigo, ça passe en congélation. Parce que notre frigo, il ne va pas à moins 35,
non.
Notre congélateur. Donc, c'est surgelé chez le marchand à moins 35, et après, quand ça vient chez nous, c'est un peu moins
gelé.
C'est ça,
en fait, les surgelés, on surgèle rapidement le produit donc à moins 35.
D'accord.
C'est surgelé, et ensuite, on le garde au congélateur.
Au congelé. D'accord.
Voilà. Ou au réfrigérateur, mais si tu le mets au réfrigérateur,
oui, c'est moins long. C'est moins long.
Quoi.
Mais déjà, d'accord. Mais c'est quand même moins froid que le départ de surgélation.
Et donc le froid, en fait, endort les bactéries et donc bloque toujours ce processus.
Et elles se réveillent dès qu'on chauffe.
Et si tu le dégèles ou si tu le chauffes, forcément, elles se réveillent.
D'accord.
Voilà, il y a quoi? Il y a l'ajout d'un conservateur. Donc vous l'avez dit, le sel. Le sel, le salpêtre, les sulfites, le sucre aussi. Les fruits, par exemple, on les plonge dans le sucre, ça conserve le fruit.
Mmh.
La graisse conserve aussi, le vinaigre, l'alcool conserve.
D'accord.
Avec modération.
Oui, dire des choses comme ça, bravo. Hein. Félicitations.
Et donc voilà, on connaît donc la saumure, par exemple, on plonge les aliments dans une solution aqueuse de sel.
D'accord.
D'où la gabelle, hein, d'ailleurs, en Ancien Régime, on faisait payer le sel puisqu'on savait que les gens conservaient les aliments dans le sel. Et le miel aussi.
C'est désinfectant, le miel.
Les Égyptiens et les Romains conservaient aussi les fruits et...
Dans le miel.
Les fruits secs.
Les abeilles aussi.
Dans le miel.
Les abeilles aussi, oui. Bien sûr.
Alors, une autre technique, c'est la fermentation. Donc, la choucroute, par exemple. En fait, le chou se conserve par fermentation. Donc, on obtient la choucroute et on la mange.
Et donc, la fermentation détruit les bactéries, en fait.
C'est une façon de conserver aussi le chou.
D'accord. Parce que ça chauffe ou parce que c'est notre procédé chimique?
Parce que ça fermente, parce que c'est les bonnes bactéries qui font
que... Oui, c'est les bonnes bactéries qui
c'est
bon pour les intestins.
Qui prennent toute la place et donc les anciennes, elles ne viennent pas, quoi.
C'est ça.
D'accord.
Les choux, ça fait des fatulences.
Oui, mais ça, c'est pas pour la conservation,
ça. Oui, mais c'est des probiotiques.
Vous,
d'accord.
Alors, trois autres. Vous avez par la chaleur aussi.
Oui.
C'est des fois antinomique, hein. Il y a par le froid, par la chaleur, il y a plein de façons. Donc il y a la pasteurisation, on connaît tous le lait par exemple, la bière, les conserves aussi, on chauffe la conserve, et après on la met à température ambiante normale, mais au moins le processus est arrêté. Donc la pasteurisation, on chauffe entre 65 et 100 degrés, puis on refroidit. Il y a la stérilisation, où on chauffe à plus de 100 degrés. Il y a l'apertisation, où on chauffe entre 115... à l'apéro, entre 115 et 121 degrés Celsius.
Ah oui.
C'est très précis. Voilà, et puis après, on met au froid et on conserve aussi.
L'UHT, c'est ultra haute température.
L'UHT, température, c'est une sorte de pasteurisation.
D'accord.
Ouais. Vous avez la conservation par l'enrobage. C'est mignon. Donc de silicate de soude, par exemple. Avec de la soude.
C'est moins mignon déjà. Hein.
Alors le désavantage de la soude, c'est que ça ça altère le goût.
Ah oui, bah, voilà. Tu m'étonnes.
Mais moi, je mangerai pas de
donc
la
soude. Donc vous ne savez
ça, ouais, ça donne pas envie. Hein.
Donc vous ne savez plus ce que vous mangez après, mais au moins
après le bicarbonate de soude, on l'utilise quand même en cuisine, mais c'est pas. C'est
au
pas
moins le produit est conservé.
D'accord, super.
Ne rigolez pas, vous pouvez aussi conserver les éléments avec de la vaseline.
D'accord.
Puisque ça crée un film protecteur autour de l'aliment.
Non, j'ai rien dit.
Ou la cire, par exemple.
Les saucisses surtout, j'imagine, hein, c'est ça.
Hein?
Non.
Les concombres,
c'est ça.
Ou la cire aussi. La cire. Qui fait qu'en fait, ça empêche, ça.
Oui, il y a des pommes.
Ça prive l'aliment d'oxygène, pommes, donc ça prive les bactéries dans l'aliment de l'oxygène extérieur. Il y a la mise sous vide, bon, ça c'est aussi connu.
On enlève l'oxygène,
et
d'accord.
Les progrès technologiques font que on utilise aussi la technique de la ionisation.
Mmh.
Et oui, j'ai appris ça. C'est un procédé mis au point en 92, et en fait, c'est une irradiation
nucléaire. Ça donne envie, hein. Ça donne envie.
Plus rien qui.
Ah bah Tchernobyl, tout est conservé, hein. Ah bah ça.
C'est presque ça. En fait, par un canon à électrons ou une source radioactive. Voilà. D'accord. Et donc en fait, on tue les bactéries qui sont dans
et les gens qui mangent.
Et après,
aussi.
On meurt.
Et donc voilà. On a fait.
Mais plus tard, donc on s'en aperçoit pas.
C'est notamment utilisé pour les fraises, pour les oignons, pour l'ail, pour les échalotes, pour les flocons de céréales, pour les légumes, les fruits secs, la viande de volaille et les crevettes.
Les
ah, je me disais, mes fraises, elles s'allumaient dans le frigo. Mais je comprends mieux.
Alors, c'est fortement utilisé au Royaume-Uni.
Oui.
Et ensuite, les produits circulent dans l'Union européenne, se retrouvent soit sur nos étals, soit dans l'agroalimentaire et dans les produits. Il y a certains pays qui interdisent l'ionisation.
D'accord.
Mais comme il n'y a pas de traçabilité, on ne peut pas savoir si
elles ont été irradiées ou pas.
A été comme ça. Alors en France, les industriels doivent quand même apposer un logo. Donc si vous voyez ce logo-là un jour, c'est que...
Ouais.
C'est
le logo.
Le logo, c'est une plante verte cerclée de pointillés verts.
D'accord.
Oh la vache.
Voilà.
Mais si c'est marqué buitonnier à côté, faites attention quand même. Hein.
C'est autre chose.
Faites attention.
Alors en France, il n'y a pas beaucoup d'ionisation quand même. L'aliment qui est le plus ionisé en France, ce sont, à votre avis, les cuisses de grenouille congelées.
Ah, okay, alors,
ouais. Super.
Les herbes aromatiques et les épices.
Ah, on en parlera tout à l'heure,
et la viande de volaille. Voilà. C'est les aliments les plus.
Les plus ionisés.
Les plus ionisés.
Ok.
Tout à fait.
Très bien.
Est-ce que j'ai... Non, c'est bon.
Oh, voilà. Oui, c'est bon. Eh bien, écoute, merci Florian. Dans une minute, on cherchera les œufs sur grand écran et on piquera une crise au rayon bonbon. Mais avant, le Graal répond à vos questions. Ce soir, vous nous avez demandé qui furent les premiers habitants de France.
Question d'Antoine Despons de C. Qui est le premier habitant de France?
Tu veux dire de la France, même avant qu'elle s'appelle la France. Parce que là, ça remonte loin, très très loin. Alors, autant te dire que ça fait très, mais très longtemps, 2 millions d'années. Mais déjà à l'époque, le gars avait le flair pour trouver les bons coins, puisque c'est sur la Côte d'Azur que les premiers hommes entrent dans l'histoire de la France. Alors, par contre, Nice et Cannes étaient encore sous les eaux, hein, donc ils sont remontés un tout petit peu plus haut. Ce premier homme, dans le sens humain, hein, me balancez pas des hashtags girl power, était peut-être canon pour l'époque, mais pour aujourd'hui, il se ferait remarquer quand même. 1m30 pour 40 kilos, voûté, un peu poilu, les dents en avant, de gros sourcils, bref, tout le portrait de Tonton Maurice. Malgré un cerveau deux fois plus petit que celui de nos contemporains, il sait déjà tailler la pierre et découper la viande. Ce premier homme habile est d'ailleurs appelé Homo habilis. Par contre, les premiers ossements retrouvés en France, près de Perpignan, ne datent que d'il y a 400 000 ans. Cet homme nous ressemblait déjà beaucoup et marchait debout et droit, d'où son nom d'Homo erectus.
C'était le Graal à retrouver sur les comptes Question Graal d'Instagram et Facebook. Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM, en Maine-et-Loire et partout dans le monde avec Spotify. On va parler d'enfants qui hurlent dans quelques minutes et on jouera au Soso Show. Mais avant, il va falloir avoir l'œil, car tels des Charlie, les réalisateurs de cinéma jouent avec nous. Alors rien que pour vos œufs, voici la chronique d'Olivier.
We're on an Easter egg hunt, we're on an Easter egg.
Un Easter egg of the pack.
Oui, des Easter eggs. Je vais vous raconter une petite histoire.
Ouais. Ah oui.
Ah oui.
Les belles histoires de tonton Olivier.
Alors, on est en 1975 sur le tournage du film The Rocky Horror Picture Show. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ah,
The
Rocky Horror
Picture Show. C'est un film un peu comédie musicale, un peu trash quand
même. Un peu horreur, ouais.
Et puis, lors du tournage, l'équipe du film a la bonne idée de jouer à la chasse aux œufs de Pâques. Donc, ils cachent des œufs un peu dans tout le décor du film. Et puis, un peu comme chez la mère de Bruno, il se rappelle.
Alors laissez ma mère de côté, s'il vous plaît, parce qu'elle écoute l'émission en plus.
Ils ont pas, tout le monde n'a pas retrouvé les œufs de Pâques. Donc, ils étaient tellement bien cachés.
Voilà, elle les cache, mais c'est plus où elle les a cachés.
Ils n'ont pas tous retrouvé les œufs. Et puis au final, mais quand ils ont tourné le film, voilà, eh bien, il s'est retrouvé des œufs à l'écran.
Ah non.
Voilà, donc là, il y avait un.
Alors il nous montre sur son téléphone.
On voit voilà un des personnages du Rocky Horror Picture Show et on voit que sous la chaise là, il y a un petit œuf là qui est caché.
Bon, il le montre aux autres. Ça, hein, c'est de la radio.
Ça, c'était pendant le tournage du film et même dans le film, on voit dans quelques scènes des œufs voilà sous les tables, sous les chaises, des trucs comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas été trouvés.
Ah, ils se sont aperçus quand même.
Oui, ils s'en sont aperçus. Après, en voyant le film, on dit tiens, l'œuf, il est là.
En voyant le film.
En voyant le film.
Heureusement que c'est une comédie, hein, parce que sinon.
Donc c'est là devient l'idée des Easter eggs. Easter, c'est Pâques en anglais. Donc Easter egg, les œufs de Pâques. C'est ça en fait. C'est des petites allusions. En fait, c'est alors, comment je peux dire. un œuf de Pâques dans un film, c'est des petits clins d'œil, des petits trucs. Voilà. Alors ça peut être des clins d'œil à des films. Ça peut être aussi des clins d'œil qui font penser à la suite du film, comme je vous verrai tout à l'heure. Ça peut donner des indices sur le dénouement du film.
Ah oui, d'accord. Et,
il y a aussi dans les jeux vidéo. Alors, pareil, dans les années 70, sur Atari 2600, il y a eu le jeu Adventure qui est
sorti. Soso est joué à l'Atari.
Et il faut savoir que sur donc Adventure, à l'époque, les programmateurs des jeux n'étaient pas crédités au générique des jeux vidéo. Il n'y avait que jeu Adventure par Atari. Il n'y avait jamais le nom des personnes qui avaient créé le jeu. Et donc, il y avait donc le concepteur du jeu donc Adventure, il s'appelait Warren Robinet. Et donc, il s'est dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon nom apparaisse dans le jeu vidéo ? Donc, il a imaginé une espèce de pièce secrète dans le jeu vidéo. Donc, quand on rentrait, on faisait différentes actions. En fait, quand on emmenait un pixel dans une pièce spécifique, eh bien, apparaissait à l'écran, soudainement, le nom de Warren Robinet. Donc, jeu créé par Warren Robinet.
Et ça se trouve, il l'a fait sans le dire au producteur.
Ce qui est marrant, c'est que c'est donc, sans le dire au producteur. Ouais. Après, il y a un gamin, Adam Keaton, qui était un ado de 15 ans, qui a découvert ce truc par hasard, là, que ça s'affichait sur l'écran. Donc, il a tout de suite appelé Atari en demandant si c'était un problème, s'il ne fallait pas être remboursé. C'est ça ce qui se passait. Et Atari était furieux, début furieux, parce que ça ne se faisait pas de faire ça. Quoi. Le mec n'avait pas prévenu qu'il avait fait ça. Et donc, ça a tellement plu à Atari que Atari a décidé par la suite que dans tous ses jeux vidéo, il fallait créer un easter egg, un jeu de Pâques.
Donc, une manip inconnue, une manip très spécifique.
Une manip spécifique.
Pour avoir quelque chose.
Alors, souvent, c'est des pièces secrètes ou des niveaux secrets de jeu.
D'accord.
Alors, ça, c'est le premier easter egg du jeu vidéo. Donc c'est une fonction cachée hein, au sein d'un programme accessible grâce à un mot-clé, à une combinaison de touches ou de clics. Donc il est souvent caché ou inséré volontairement par les créateurs. Donc il peut s'agir, je l'ai dit, d'une liste d'auteurs de logiciels, d'un jeu, d'une blague ou d'une séquence inédite. Alors il y a souvent, et au cinéma, c'est ça, c'est plein de petites références cachées, de plein de petits hommages. Alors je vous ai sélectionné plusieurs films avec les Easter Eggs. Alors par exemple, déjà, les Easter Eggs, on en avait, avant même qu'on se trouve le nom d'Easter Egg, il y avait ça dans les films d'Hitchcock. Dans les films d'Hitchcock, il y a toujours dans le film, il y a toujours l'apparition d'Alfred Hitchcock.
Ah, c'est tous ces films. Caméo, ça, c'est ça
c'est un caméo. Mais c'était,
le caméo, c'est un Easter Egg aussi,
quand j'étais gamin.
D'accord.
Ouais, avec mes parents, on cherchait toujours quand allait apparaître Alfred Hitchcock. Alors, ça dure une demi-seconde, mais c'est un passant, où il assis à une chaise, il assis à une terrasse et tout. Et on disait, tiens, c'est Hitchcock qui est là.
Donc, c'est pareil dans Marvel, on a ça
Marvel
aussi,
avec Stan Lee. Avec le créateur des Marvel, des comics, oui, effectivement, il joue dans tous les films.
Et c'était pareil avec Tarantino aussi
Il en a fait aussi
des
Easter
Eggs. Il apparaît dans les films aussi.
Tarantino,
effectivement. Alors, je vous ai sélectionné des Easter Eggs. Il y a des Easter Eggs qu'on a découverts, mais des années après. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu un scandale à travers les aventures de Bernard et Bianca, le dessin animé.
Ah non, le dessin animé. Il y avait des singes ou il y avait des trucs comme ça
Pendant cinéma subliminal, à un moment donné, ils s'envolent, Bernard et Bianca, dans un avion. Et on voit dans la ville, à un balcon, t'as une femme à seins nus, avec des seins nus, quoi.
Les Disney, ils en ont fait beaucoup.
Astérix et Obélix, on voit les
roubignoles, ouais.
C'est vrai.
En arrêt sur image, on peut voir des roubignoles, ouais.
À l'époque, personne n'avait vu. Quoi.
Bah oui, c'est ça. Là, bah, tu m'étonnes.
Avec la vidéo, on peut faire arrêt sur image.
C'est ça. Avant, on ne pouvait pas avec le cinéma. Bah, non, ça passait, mais maintenant, avec la vidéo, oui.
Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est en 2007, il y a eu le film de Mel Gibson, Apocalypto, sur les Mayas, où à un moment donné, à la fin du film, donc on est dans une fosse commune, et le réalisateur, il y a une image subliminale où, à un moment, il a caché le personnage Charlie dans le charnier des Mayas.
Oh, c'est dingue.
On le voit avec un bonnet, un pull rouge et blanc, et c'est on voit dingue. Charlie.
Oh, ça, c'est con, ça n'a rien
c'est
à voir.
Douteux. Ouais, c'est
la photo,
douteux,
mais vous pourrez chercher, c'est assez édifiant.
Ouais, mais douteux.
Plus sympathique, il y a le film Jurassic Park. Alors, Spielberg, il faut savoir, il est absolument fan des Goonies. Les Goonies, alors...
Il a caché des Goonies dans Jurassic Park.
Oui, oui, oui. Alors, pour ceux qui connaissent, les Goonies, c'est un film sur des enfants. Des enfants, oui, qui font des jeux d'aventure, tout ça. Et bah, dans Jurassic Park, il y a le personnage de Denis. Denis, c'est le mec un peu enrobé, là, qui vole à un moment donné un embryon de dinosaure. Mm-hmm. Et voilà. Et dans le film, il porte trois costumes. Voilà, donc une chemise à fleurs, un anorak jaune et puis une veste grise. Il faut savoir que c'est exactement les mêmes habits que portent trois des jeunes héros des Goonies.
Les jeunes héros, ah, d'accord, c'est bien, dis donc.
Voilà, c'est exactement une allusion à Goonies, parce que Spielberg est fan des Goonies. Quoi. Donc,
malin.
Fallait
trouver.
Ah,
aussi, il faut trouver. Le dernier, t'en parlera après.
Il faut trouver.
Alors, plus subtil, ça je ne savais pas, pour ceux qui sont fans du film de David Fincher, Fight Club, avec Edward Norton et Brad Pitt. Alors, je vous raconte le film. Je spoil.
Bon, vas-y.
C'est Edward Norton, en fait, qui est ami avec Brad Pitt. Et en fait, c'est un personnage qu'il a créé par son imagination. Et ça, on le sait qu'à la fin. D'accord ?
Okay. Il spoil bien, là. Là
c'est
oui.
Le gros spoil.
Et pourquoi c'est important pour
et
le...
C'est important parce qu'à un moment donné, le personnage d'Edward Norton, donc c'est lui qui a imaginé Brad Pitt, il reçoit un appel de Brad Pitt dans une cabine téléphonique. Donc, il répond et à un moment donné... Pendant quelques secondes, on voit sur la cabine téléphonique un panneau qui indique qu'il n'est pas possible de recevoir d'appel entrant.
Ouais.
Donc déjà, là, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille que quelqu'un ne peut pas l'appeler.
Ah, d'accord.
Il a tout imaginé.
Oui, d'accord. Donc c'est la
c'était
fin.
C'était des petites
allusions, des petits indices. Ouais.
Mais on sait... Alors, c'est pareil, hein, c'est pas si inaperçu à l'époque, mais les gens retrouvaient ça en regardant le film en vidéo.
Moi, je me souviens, dans Star Wars, il y a E.T. qui apparaît dans le public.
Il y a beaucoup, beaucoup Spielberg, George Lucas, ils sont vraiment
ils
fans.
Ils s'amusent beaucoup.
Dans Star Wars, la menace fantôme, à un moment donné, on est dans le Sénat galactique. Et effectivement, il y a plein de races, je ne saurais pas dire ça, mais il y a plein d'extraterrestres différents. Et à un moment donné, on voit deux E.T., comme E.T., deux races d'E.T. en fait, qui sont dans le Sénat galactique. Là aussi, c'est très, très, très rapide. Et puis aussi, alors, plus amusant, 81, dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Là, donc, il y a Harrison Ford et Indiana Jones qui sont dans un temple égyptien. Et sur un pilier du temple, on voit en hiéroglyphe R2-D2 et C3PO.
Ça amusait bien tous les deux, quand même. Tout, quoi. Ouais.
Alors, je vous conseille d'aller voir YouTube, Allociné. Il y a plein de petites allusions.
On cherche Easter Egg et puis
Easter
Egg,
et puis il y a même un compte Twitter, Hayden Easter Eggs, où là, il y a 300 000 abonnés. Et là, vous pouvez voir tous les films récents, tous les Easter Eggs qu'il peut y avoir.
Voilà. Très bien. Bah, ça va bien nous occuper, ça.
Très amusant de regarder ça.
Ouais.
Est-ce que quand ils font ça, un Easter Egg, est-ce qu'ils doivent créditer
Non, bah, c'est des copains. Parce que là, E.T., tout ça, à chaque fois, c'est des copains. Ou il y en a un petit peu partout. Non, c'est des clins d'œil quand même.
Oui, c'est plus des clins d'œil.
Ouais, c'est des clins d'œil. Merci Olivier. Alors, beaucoup disent qu'avoir des enfants, c'est un bonheur tous les jours, surtout ceux qui n'ont pas d'enfants. Quand nos chérubins prennent un malin plaisir à nous mettre la honte en public, on s'en vient à regretter de les avoir emmenés en course avec nous. Alors, assise dans son caddie, elle en connaît un rayon jusqu'en avoir la tête qui gondole. Voici la chronique de Pauline. Ils ont mis sur la longueur en plus. Hein. Mmh. Encore un peu ?
Oh oui.
C'est Alain.
J'ai l'impression d'être au boulot. Non,
c'est ça.
Alors, que se passe-t-il dans le cerveau de notre petit enfant quand il jette des objets par terre ou se jette lui-même par terre, quand il mord ses camarades, quand il les tape ? Eh bien, pour nous éclairer, je m'appuie sur l'apport du docteur Guéguen, qui est pédiatre et qui a travaillé depuis 20 ans sur les neurosciences affectives et sociales. Donc, c'est ce mouvement qui a émergé au XXe siècle. Et donc, les neurosciences nous apportent une vision totalement différente de l'enfant. c'est un vrai bouleversement puisque on a découvert que jusqu'à l'âge de 6-8 ans, l'enfant a le cerveau totalement donc immature. Il est pas, il est
des
pas
fois,
fini.
Des fois, il est plus âgé aussi. Hein, enfin, moi, je voudrais oui, pas dire de non, mais
on va se donner de l'espoir.
Ça s'arrête pas à 6 ans. Hein. Des fois,
donc on se dit
6-8
ans. Et donc, il est pas fini, quoi. Donc, ça veut dire qu'il lui manque une case, hein, concrètement, voilà.
C'est dur.
Il ne sait pas gérer ses émotions, et donc quand l'enfant a un besoin profond insatisfait, besoin d'attention, besoin de calme, besoin de jeu, il se met en colère, par exemple. Et en fait, c'est totalement normal. Pourquoi ? Puisque en fait son cerveau est dominé par une partie de son cerveau qu'on appelle le cerveau archaïque, et donc il y a des réflexes de survie. Donc quand il nous crie dessus jusqu'à cet âge-là, eh bien c'est totalement normal. Ce n'est pas un enfant mal éduqué comme on pourrait le croire. C'est tout simplement que son cerveau disjoncte. Voilà. Donc
quand il est à la caisse et qu'il veut des bonbons et qu'on lui donne pas de bonbons.
Il disjoncte
parce qu'il est archaïque.
Oui, c'est l'instinct.
Pour lui, c'est l'instinct de survie. Je veux des bonbons.
C'est inhérent au fonctionnement du cerveau quand il est au début de son.
Donc du coup, c'est pas la peine d'essayer de le raisonner du coup.
Alors, je vais quand même vous laisser sans solution, mais en tout cas, le cerveau mature jusqu'à 25 ans. Donc c'est pareil pour les ados. Hein. Il leur manque une case, effectivement aussi.
On comprend mieux pourquoi t'es voilà.
On comprend mieux ce qu'on voit dans les rues.
Ouais,
voilà,
on te comprend mieux maintenant.
C'est normal. En tout cas, les solutions. On pourrait donc déjà étape 1, déjà arrêter avec la vision qu'on a des enfants que pour les élever, il faut les dresser, hein, tout simplement. Cette vision qu'on a depuis des millénaires et selon laquelle il faut humilier verbalement et physiquement pour qu'un enfant grandissent.
Oh, c'est dommage.
On peut quand même gronder un enfant sans l'humilier. Laisser tout passer.
On doit rester ferme, mais rester dans la bienveillance, dans maintenir son intégrité physique et émotionnelle. Mmh. Donc, on va finir déjà avec cette vision-là. Hein. Il y a toujours eu des crises, autant de crises dans les magasins depuis la nuit des temps, enfin, puis même dans la rue, hein, on va dire, ça n'a pas changé. Donc, dressage ou pas, ça ne va pas changer.
Ne plus emmener ses enfants dans les magasins, ne plus les emmener dans les trains,
aussi,
ni dans les avions.
Étape 2, se chouchouter. Donc, ça veut dire quoi ? Accueillir ses émotions en tant que parent. Déjà, rien que le fait de se dire « je suis en colère », ça va calmer votre amygdale cérébrale qui sécrète les hormones du stress. Non, mais rien que ça, posez des mots sur votre émotion à vous, déjà, vous allez souffler. Vous testerez.
Le gamin hurle et dit « oh, je suis pas content », il hurle et du coup, on va mieux.
Non, tu te le dis à toi-même. Tu te le dis
mais
à toi-même
ça, oui,
d'abord.
Je suis pas content.
Oui, d'accord. Oui.
Voilà, je suis pas
mais
content.
Déjà, réaliser son émotion à soi. Parce que souvent, on est sur le qui-vive, là, et puis on n'en peut plus, et puis voilà, on pète un câble.
Le gamin, il
saute et c'est le bordel. Donc, non, on va déjà se chouchouter à soi parce que, de toute façon, c'est il n'y a que nous qui pouvons régler, gérer la crise, de toute façon.
Il peut mettre un mot sur ces...
Et donc,
genre de dire j'ai une envie ou je sais pas.
Alors le mieux, oui, c'est effectivement de garder son calme et d'accueillir l'émotion effectivement de son enfant dans la mesure du possible, en étant empathique. Ça peut donner par exemple un exemple si on vous disait après une dure journée de boulot, vous en avez marre, vous êtes rincé, vous êtes tapé les bouchons sur la route, bien énervé à la maison, et puis votre conjointe vous dit je veux pas te voir, file dans ta chambre, puis tu réfléchiras bien à ton comportement s'il te plaît. Effectivement, c'est pire. Donc accueillir l'émotion de son enfant à ce moment-là, c'est pourquoi pas lui faire un câlin. Bizarrement, c'est pas du tout ce à quoi on pense dans la minute qui suit.
Enfin, un gamin qui hurle, tu fais un câlin, t'as plus de tympan, quoi. C'est.
Figure-toi, déjà faire un câlin ou montrer de l'affection, en tout cas, montrer que le lien n'est pas cassé entre vous deux, parce qu'en fait, il cherche à renouer le lien finalement. Puisque en fait il est en plein délire, hein, si on peut dire émotionnel. Donc,
quand c'est en public, c'est dur quand même, il faut l'entendre.
Ah bah oui, c'est sûr. Mais déjà si tu te sers de l'étape 1 de ma démonstration,
oui,
où
mais...
tu te dis tu n'es pas un mauvais
parent.
Sauf
que ton voisin
normal.
Dans le train, lui il va pas se dire oui je suis bien, elle est bien. Non, il a envie de te taper quand même.
Après on fait du mieux qu'on peut. Hein. Ouais. Ça reste.
Ou alors tu fais un câlin au voisin. peut-être
Monsieur,
pour...
calmez-vous.
Pour calmez-vous. Oui, c'est pas grave. C'est son instinct.
Ça va,
c'est
ça
pas
va
grave.
Se terminer un jour.
Ouais, d'accord.
Et que... t'emmènes pas tes gamins dans le train.
C'est oui, c'est ça, oui, c'est ça. Tu les sors plus, tu les enfermes.
Gardez cette idée que de toute façon, la crise va passer, de toute façon. Enfin, elle passe toujours.
Bah, on y va dormir.
Mais
ouais.
Plus accueillir l'émotion, c'est aussi poser des paroles sur son émotion, puisque lui, il n'est pas capable de faire ça, de décrire ce que lui est en train de traverser, par exemple. Voilà, et je terminerai surtout pour un dernier conseil, surtout de ne pas se culpabiliser, parce que comme dit Bruno, c'est pas facile tous les jours de gérer quelqu'un qui se roule par terre, mais voilà, on fait tous des erreurs, de toute façon, tout le monde apprend à être parent, hein. ça n'est pas inné, et puis surtout, si on sent qu'on pète un boulon, eh ben, c'est à nous de nous isoler, et pas à l'enfant.
D'accord.
En tout cas. Voilà.
Donc après 6 ans, normalement, ça devrait se calmer.
8 ans.
8 ans.
Si, si.
Et après, on allait à la crise d'ado, quoi.
Bah après, ils peuvent plus en jouer et donc plus jouer dans
oui,
la manipulation.
Oui, par contre, eux, ils savent,
ça,
ouais, c'est plus ça.
Ça, c'est avéré, par contre. Ouais. Mais avant, non, c'est plus parce qu'il leur manque une case, quoi.
Il ne sera pas forcément traumatisé parce qu'il s'est roulé par terre et qu'on ne lui a pas acheté le paquet de bonbons, par
exemple. Mais non, justement. Il ne faut pas abonder dans son sens. Surtout pas.
Ah,
non, mais c'est, il n'y a pas besoin d'abonder. Parce que de toute façon, on ne peut pas,
c'est inconscient pour lui aussi, donc.
Répondre à l'ensemble de ses besoins. Enfin,
mais est-ce que
demandes,
dire
«
pleure, tu pisseras moins », est-ce que c'est bien?
Comment?
Est-ce que de dire « pleure, tu pisseras moins », ça sera bien, et puis laisser passer comme ça? Non, il faut vraiment lui parler.
Ça passera beaucoup plus vite, justement, si tu accueilles, ouais, si tu parles, si tu poses des mots sur son émotion à lui.
Et faire un câlin.
D'accord.
Ouais.
Bon. Voilà. Bah écoute, on va essayer.
Ça voulait...
On te promet rien.
Non, mais surtout, c'est là, tout ce que dit le docteur Guéguen, c'est surtout d'éviter d'être dans la confrontation, dans le fait de se dire que l'enfant, il nous cherche forcément et que ce n'est pas un rapport de force, en fait.
D'accord.
Lui, il ne cherche pas...
Ça, ce sera quand on sera ado.
Non, mais même,
mais 8,
même avant 6-8 ans,
c'est ça, oui.
il nous cherche pas.
Il ne cherche pas, il n'a pas d'accord.
Il ne cherche pas à embêter ses parents.
D'accord,
en fait.
Mais il y arrive. Ok,
voilà.
Eh bien, merci en tout cas, Pauline, pour toutes ces informations. Pour terminer cette première partie... Elle est de retour. Et je peux vous dire que, pour avoir écouté les indices de ce soir, on va commencer très fort et très classe. Voici Sonia et son so-so show.
C'est chaud, c'est chaud, c'est le so-so show.
Chaud, cacao. Quand tu chantes,
le lave-toi sur le...
Tout, vous saurez.
Chaud.
C'est toujours très très classe.
Ah oui, non, mais là,
ça ne doit pas vous surprendre.
Ah bah, dès les premières secondes, vous allez dans le bain. Hein. Ça, voilà, je vous le dis. Hein. Je vous le dis.
Alors, ce soir, c'est le retour du petit jeu, les expressions bien de chez nous. Alors, je vais vous proposer donc de retrouver à l'aide d'indices musicaux choisis avec beaucoup de...
D'amour.
Et de délicatesse.
Oh là, oui.
D'intention.
Oui.
Donc, de retrouver donc des expressions françaises et ensuite, on essaiera de les décrypter ensemble et de découvrir leurs origines. Alors, ben, je vous propose de commencer tout de suite avec les premiers indices pour la première expression.
Le so-so show.
De Nantes à Montaigu, la digue du cul. De Nantes à Montaigu, la digue du cul.
Ton cul, curbitacé.
Mon cul, curbitacé, il est bien.
Je veux m'asseoir sur une chaise.
Une chaise de cul.
Une table des chaises volent.
Le so-so show.
Alors, quels sont les principaux indices que vous avez?
Alors, ça parle de Luc.
Avoir le cul entre deux chaises, c'est ça?
Oui, bravo. Oh, wow. Olivier.
Bravo, Olivier.
Ah,
c'est ça.
Toujours très fort, hein, bravo. Donc, effectivement, l'expression avoir le cul entre deux chaises, ou qui effectivement précise, hein, être tiraillé entre deux situations, ne pas savoir du coup quelle option choisir. Hein, donc. Je ne sais pas si vous l'utilisez souvent, moi ça m'arrive.
Si.
D'avoir le cul bordé de nouilles.
Le cul bordé de nouilles, c'était la dernière émission.
Alors, cette expression familière fait référence à la sensation d'inconfort que l'on ressent lorsqu'on s'assoit entre deux chaises. Hein, l'image parle d'elle-même. Et je confirme que j'ai
ça m'arrive pas souvent, par contre.
Idée... Eh bien, si, justement, j'ai eu cette idée d'expression ce week-end parce que j'ai moi-même expérimenté le fait de laisser un petit bout de ma chaise à quelqu'un et de me retrouver avec le cul entre deux chaises.
Ah,
et
ouais.
Je me suis dit, bah tiens. On va parler de cette expression. Voilà, ça tout simplement.
Ça vient de là.
Alors, bon, l'expression, elle a pris son essor.
Priez pour qu'elle n'aille pas aux toilettes la semaine prochaine.
L'expression, elle a pris son essor au XXe siècle et on en trouve quelques utilisations antérieures, souvent sous la formulation « le cul entre deux selles ».
Ah, de cheval.
Voilà.
Ah, c'est encore plus compliqué quand même. Il faut avoir un énorme ou un petit cheval.
Alors, souvent on retrouve dans les textes en 1785 mettre le cul entre deux chaises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Et puis voilà, le cul entre deux selles quand même qui revient au XVIe siècle avec Montaigne. On peut terminer donc en notant que le dictionnaire de l'Académie française, dans son édition de 1694, mentionne, on dit d'un homme qui, ayant fondé son espérance sur deux choses différentes, ne réussit pas dans une et qu'il demeure entre deux selles, le cul à terre. Voilà.
D'accord, donc ça vient de là.
Ça vient de là. Allez, on y va pour le deuxième indice sonore.
On devrait jamais hésiter.
C'est la réponse.
Ah,
ça vient de lui, c'est vrai.
Le cul entre deux chaises, à jamais personne.
C'est vrai qu'il y avait ça. Allez, deuxième sauce au chaud.
Le sauce au chaud.
Ah, si vous connaissiez ma poule. Ah, si vous connaissiez ma poule. Besoin de chair de poule. Besoin de chair de poule.
Tu
as des dents de lait, pas des dents de loup.
Oui, j'ai des dents de lait, mais des dents de lait de loup.
C'était bien avant quand j'avais toutes mes dents.
J'attendrai pas la Saint-Glinglin,
le sauce au chaud.
C'est la même expression.
Les poules ont des dents.
Ouais, mais c'est les indices qui permettent, voilà.
Alors de la poule.
Les poules ont des dents.
Ah oui.
Voilà, c'est ça. Ça fait une espèce de petit rébus. Tu vois, le principe, c'est ça. Donc effectivement, quand les poules auront des dents. Alors, qui dit la poule? On peut l'entendre comme la poule mouillée, la poule de luxe, de basse-cour, la poule aux œufs d'or qui donne des frayeurs ou bien transforme nos bouches en forme de... Alors, c'est un animal qui a bien souvent donné du grain à moudre à notre charmante langue française. Donc, la signification de cette expression fait référence à quelque chose qui n'arrivera certainement jamais. Et donc, on emploie cette expression quand on veut dire de quelque chose qu'il ne se produira donc jamais. Cette expression est attestée à la fin du XVIIIe siècle et c'est plutôt l'expression « quand les poules pisseront » qui est utilisée dans le sens de notre actuel « quand les poules auront des dents ». Bah oui, ça se transforme légèrement.
Bah, sauf que les poules
pissent.
Normalement.
Bah, non.
Non,
bah,
non.
Si, quand...
non, non, non.
Les poules, elles font pas pipi.
Non.
Elles urinent. C'est tout.
Alors.
Ah, elles font. D'accord, c'est la fiancée.
Ouais.
D'accord.
La fiancée, ça doit être les deux.
D'accord.
Voilà, t'as pas de trou.
Enfin, bon appétit si vous êtes.
Vous connaissez aussi peut-être les expressions synonymes, remettre au calende grec, la semaine des 4 jeudis ou à la Saint-Glinglin, c'était l'indice, qui sont des variations pour dire la même chose. Voilà. Si les poules sont très présentes dans nos expressions à nous françaises, les équivalents étrangers convoquent d'autres animaux. Par exemple, les Anglais eux disent quand les cochons voleront. Les Espagnols, eux, c'est quand les grenouilles auront des poils. On peut toujours attendre, effectivement.
C'est ça.
Et les Allemands, quand les poissons apprendront à voler. Enfin bon, toutes ces expressions expriment une même chose, une impossibilité naturelle. Elles qualifient donc quelque chose qui ne se produira jamais.
Quand les poules auront des dents. Quand les poules auront des dents, quand les poules auront des dents.
Ouais, oui, d'accord.
Est-ce qu'on s'en fait un petit troisième?
Eh ben oui, on y va.
Allez, on y va.
So, so show.
Je me lève et je te bouscule.
Je traîne les pieds, je traîne les pieds.
Je suis désolé, je n'ai que deux pieds.
À droite, bourse.
À gauche, on n'est pas d'accord.
Rive gauche, à Paris.
So, so show.
Ah, alors une histoire de pied.
Plus court, voilà.
Une histoire de pied.
Il y a un réveil au début.
Un réveil
du bon pied.
Ah oui.
Du mauvais pied.
Non, il y a la gauche.
Oui, c'est ça, se lever du pied gauche. Ah.
Donc, bonne réponse de Florian.
Ben voilà, chacun une bonne réponse. Alors, signification, hein, mal commencer une journée et être du coup de mauvaise humeur. Alors, l'origine de l'expression est ancienne, on l'utilise car la majorité des humains sont droitiers. Donc, effectivement, gaucher, ça a toujours été un peu finalement.
Ah oui, être gauche.
Tard, mais oui. Voilà, être gauche, c'est ça. Donc, ainsi, un droitier qui essaie de faire quelque chose avec la main gauche est fort maladroit et on le dit très gauche d'ailleurs. Exactement.
D'accord.
Donc, une une personne qui se lève doit aussi se lever du pied droit, et si elle fait l'inverse, il est dit dans les croyances, de la nuit des temps, je dirais, que sa journée sera très mauvaise. Même si c'est un tantinet capillotracté, il ne faut pas chercher plus loin l'origine de cette expression. Cela dit, on ne peut pas oublier quand même que gauche, que le mot gauche se disait avant sénestre, mot qui a la même origine que sinistre.
Ah, vous le direz Hidalgo, ça.
Oh. Alors on ne peut s'empêcher de faire un lien, donc voilà, même s'il est...
Et puis, marcher dans la caca du pied gauche aussi.
Alors, également, au XVIIe siècle, on disait également d'un cheval qui levait le pied gauche avant en premier, qu'il galopait sur le mauvais...
Pied.
Mauvais pied.
D'accord.
Est-ce pour autant le canasson était de mauvaise humeur ? Ça, l'histoire ne le dit pas. Toujours est-il, il semble que cette expression ait changé de sens assez récemment, puisque parfois aussi, effectivement, partir du pied gauche, c'est partir du bon pied. Donc, en fait, en fonction de... voilà, c'est ça. Donc, voilà un petit
pour
peu l'histoire de ce pied gauche.
Merci, Sonia. Vous êtes toujours dans CMA, c'était mieux après, l'émission qui revient sur les origines des choses. Et on attaque maintenant la deuxième partie de l'émission. Il va nous mettre le feu ce soir, en particulier sur nos papilles. Bonsoir, Titouan, de quoi nous parles-tu ?
Bonsoir, je vais vous parler des épices.
Des épices, ok. La messe est dite pour lui quand le moinster, lui, il parle. C'est un peu capillotracté, ça. Bonsoir, Robin. Où nous emmènes-tu ce soir ?
Bonsoir. Bah, moi, je vous parle d'une amie qui a presque le même âge que toi, Bruno.
Allez, ça faisait aussi, longtemps.
Et tout aussi festive, en tout cas, que toi. Je te parlerai de l'abbaye de Fontevraud.
Voilà. Ah, Fontevraud. Bon, ok. On aura aussi droit à un second Graal où on parlera de conneries. Là, je vous avoue qu'on en a une balèze, vous entendrez. Il est maintenant temps, donc, de commencer la deuxième partie de CMA. Après les Spice Girls, voici le Spice Boy. Il n'y a pas que dans Dune qu'il y a de l'épice. L'épice est partout. Heureusement, il en tient une couche, car il en a aussi dans sa chronique. Et pour le jingle, je vous le dis de suite, je n'assume pas du tout, car c'est pour le moins épicé.
J'ai trop mis d'épices, maintenant je fais des... J'ai trop mis d'épices, maintenant je fais des... J'ai trop mis d'épices, maintenant je fais des... J'ai trop mis d'épices, maintenant je fais des...
Voilà.
T'as bien fait de venir, Titouan.
Ah, tu disais que...
C'est tellement classe.
Mes petits indices musicaux étaient...
Je m'adapte. Je m'adapte.
Hein,
c'est un chanteur angevin.
À côté de...
Ouais,
de ça.
Vous êtes bien sur Radio G. Hein.
Une émission de qualité.
Ne zappez pas, s'il vous plaît.
Non, on sort juste de Taco Bell, tout va bien.
C'est voilà, c'est ça.
Alors du coup, pour commencer sur les épices, à votre avis, quelles sont les épices les plus utilisées ? D'abord, les premiers à avoir été utilisés, du moins en Occident.
Est-ce que le sel, c'est une épice ?
Alors non, malheureusement, le sel n'est pas une épice. Et le sucre non plus.
Le sucre non plus.
Curry, bah oui.
Et on est très proche, c'est ça. Alors il y avait en effet le poivre et un des composants du curry. Hein, on verra plus tard pourquoi. Le gingembre principalement, en fait. Okay. Le gingembre, le clou de girofle et la cannelle et le nard.
C'est quoi le nard ?
Voilà, personne ne sait ce que c'est le nard.
Le nard ou le nanar ?
Le nard tout court, moi aussi j'ai découvert ça. C'est une petite plante qui pousse plutôt du côté méditerranéen, mais en fait on en retrouve ici, qui fait une petite fleur rose en boule. Et en fait à l'origine on l'utilisait pour faire du parfum, et les Grecs l'ont détourné en épices pour la nourriture. Voilà, et du coup c'était des épices qui venaient principalement d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Du coup, principalement, en fait, étaient transportés en bateau depuis la Méditerranée. Ce pourquoi on les a eu aussi vite en Occident. Du coup, l'épice la plus utilisée et toujours plus utilisée, c'est le poivre. À ne pas confondre avec le poivre des moines, pour rejoindre l'abbaye de tout à l'heure.
Le poivre des moines, c'est quoi ?
Le poivre du... Ouais. D'accord. Qui pousse sur le gâtillier. Son nom latin, c'est Vitex Agnus Castus.
D'accord. Non. On te croit sur parole. Hein.
C'est une plante qu'on retrouve fréquemment en France et qui d'ailleurs était utilisée, on va voir, pour quelque chose de plutôt étonnant. Il a le même goût que le poivre, il est comestible, mais en effet son utilisation est un peu différente. Les moines l'utilisaient pour supprimer la libido et assurer la stérilité.
Ah super. Hein.
On se demande pourquoi. Enfin bref, assez parlé de Bruno.
Non, bon, ça. Tu me lâches, ouais.
Vous connaissez le safran, sinon ?
Oui. Oui. Oh, c'est cher, ça, non ?
Ouais, l'épice la plus chère du monde, surnommée l'or rouge.
C'est l'épice style des crocus, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Ça peut coûter jusqu'à 30 000 euros le kilo.
Ça va.
parce qu'en fait, pour 1 gramme de safran, il nous faut jusqu'à 200 fleurs.
Non, mais de... ça a peu de goût quand même.
Récolté enfin, à la
non,
main.
Il en faut, il en faut pas beaucoup pour avoir beaucoup de goût, c'est ça?
Bah, je sais pas, moi je sens jamais la différence.
Justement, parce qu'en fait, il y a.
La finesse.
La finesse, ou alors parce qu'en fait, ce qu'on nous vend souvent, en fait, c'est des petites brindilles qui sont parfumées au pistil de safran. Parce que ça coûte en effet trop cher de produire du vrai safran et du coup, on mixe un peu ça avec le pistil.
Et...
en effet, dans la farine et pas dans le safran, parce que sinon.
C'est trop cher.
C'est ça. Bref, à l'origine. Du coup, à l'origine, le safran vient de Crète, en Grèce, et il a été très vite cultivé dans toute l'Europe, l'Inde et le Moyen-Orient principalement. Et le safran, du coup, vient d'un crocus, comme tu l'as dit, le crocus dit à safran, de son nom latin Crocus sativus. Les plus grandes cultures de crocus d'Europe sont en Allemagne, mais vous le savez peut-être d'ailleurs, il y a une ferme qui cultive le crocus juste à côté de chez nous, à Touraine, dans le Val-de-Loire, qui est apparemment très réputée. Le crocus de Touraine est plutôt connu. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire pousser du crocus chez vous, ça coûte vraiment rien du tout, c'est une jolie fleur en plus, donc au lieu de planter du crocus quelconque, plantez du crocus à safran et faites-vous de l'argent. Sinon, la vanille, parce que du coup, contrairement au sel ou au sucre, la vanille est un épice. Vous savez ce que c'est la vanille? Sur quoi ça pousse?
Un arbre. Fleur d'orchidée ou
c'est une gousse, on dit des gousses de vanille. C'est ça.
Ouais, c'est la gousse de graine d'une orchidée liane plus précisément. Elle est presque aussi coûteuse que le safran, enfin 350 € le kilo quand même, ce qui est vraiment pas donné. On la retrouve dans toutes nos pâtisseries, elle provient à l'origine du Mexique, où il était cultivé par les indigènes, puis au 19e siècle, elle est importée dans l'océan Indien, principalement à Madagascar et à La Réunion. Du coup, la vanille, en effet, pousse sur une orchidée dite liane, Vanilla planifolia, de son nom latin. Enfin, c'est du moins la plus connue, parce qu'en fait, il existe plein de vanilles différentes, comme la vanille bourbon aussi, qui est légèrement différente, ou la vanille de Tahiti, enfin bref. C'est... La plupart des gens diront que c'est de la vanille, mais apparemment ça aurait une différence. Enfin bref. En fait, la gousse de cette vanille, de cette liane, du coup, est laissée fermenter sur la plante. C'est pour ça qu'en fait on les retrouve noires et un peu collantes comme ça. C'est parce qu'en effet elles pourrissent, entre guillemets. Elles ne sont pas conservées, malheureusement, ni lyophilisées, ni mises sous vide. Donc on la laisse fermenter sur la plante. Et non, pour ceux qui se demandent, on n'utilise plus de glandes d'annelle de castor pour faire de l'arôme de vanille.
Ah, c'était ça, il y avait ça. Ouais. Maintenant, on le fait chimiquement, c'est ça? Il y a des
Alors, en effet, on le fait chimiquement, ou alors, en fait, on utilise juste la vanille, parce que maintenant, avec les techniques de clonage, c'est allé beaucoup plus vite. Ah oui, parce que, petit aparté botanique, la vanille ne peut pas pousser n'importe comment. Si on plante des graines de vanille, ça ne poussera jamais, parce qu'il faut un champignon pour faire pousser la vanille. Oh, sinon, la graine ne se développera jamais. Et en fait, c'est un botaniste anglais qui a mis ça au point. Il fait donc pousser des vanilles à 48 degrés dans des boîtes de pétri. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire les premiers clonages. Et voilà.
D'accord.
Et après ça, ça a été le début du feu de la vanille, on peut dire. Enfin bref, les castors avaient le feu.
Oui.
Oh, eh ben non.
Forcément.
Du coup, non. Bref, pour reprendre sur le curry, c'est...
On a eu peur.
Ouais, ne fourche pas. Hein.
Du coup, pour reprendre sur le curry, qui est une des épices les plus utilisées, enfin, le curry de Madras, parce qu'il y a plein de types de curry différents, comme le curry indien, le curry de Bombay, le curry vert, le curry feuille. Et au final, on est en droit de se demander, mais c'est quoi le curry?
C'est un truc jaune qui tâche.
En effet, ça tâche. Et parce que c'est pas une seule plante, comme je le pensais à l'origine. C'est un mix de dizaines de plantes différentes qui est fait par donc les Indiens d'Inde, pas d'Amérique. Et en Inde, on reconnaît même certains curry comme sacrés et on leur donne des vertus thérapeutiques.
C'est quoi les plantes alors?
Donc c'est une recette alors?
Alors, il y a du. Des mix d'épices, du fenouil, du cumin, enfin c'est. On mélange plein de poudre, de graines.
D'accord. Et Pierre et Marie, là-dedans, ils font quoi?
C'est une très bonne question.
Là, ils ont des isotopes. Là, ils peuvent effectivement être conservés par irradiation, eux.
Ah, mon Dieu, c'est vrai qu'ils doivent être bien, bien conservés, en plus, dans leur cercueil de plomb, au final.
Ouais, c'est ça.
Bref, et petite fun fact pour finir. Est-ce que vous saviez que si vous n'appréciez pas le goût de la coriandre, que vous avez l'impression que ça a le goût du savon? Parce que moi, c'est mon cas, je n'ai jamais pu manger ça.
C'est mon herbe.
T'aimes bien la coriandre?
Ah, j'adore. Je trouve que ça relève, ça donne une saveur au plat.
Donc, est-ce qu'elle n'est pas normale alors? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde n'a pas le même goût?
Parce qu'en fait, c'est génétique. Le gène en question, il s'appelle OR6A2.
D'accord,
si
pourquoi pas.
Chercher là-dessus.
Toucher coulé.
Non, malheureusement, ni C3PO. c'est donc lui qui contrôle l'interprétation du goût et de l'odeur aux aldéhydes, qui est en fait une molécule qu'on retrouve principalement dans le savon. Et dans les punaises aussi, mais
ah oui, pas pareil.
Dans le savon en fait, pour moi ça a le goût du savon surtout. Et en fait la coriandre est principalement composée de ces aldéhydes, et quand on a ce gène récepteur qui est trop exprimé, eh bien on peut tout simplement pas manger de coriandre.
On trouve que ça
coriandre.
A un goût de savon, bah ça tu
vois. Ouais, tu vois.
Tu peux manger du savon.
Alors au final, c'est vrai que le savon de Marseille c'est pas dangereux, mais je te déconseille de manger du Elden Shoulder.
Donc quand il y a du gène, il n'y a pas de plaisir du coup dans ce cas-là.
C'est
okay.
ça.
Ok, très bien. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Allez, on continue maintenant l'émission. Ce qui suit est une énigme pour moi. En effet, on va parler d'abaille. Oui, je dis abaille, parce que quelle idée de prononcer ABI. Est-ce qu'on dit Nathalie Bailly hein? Franchement, en plus, il y a deux B dans ABI, alors que dans Robin, il n'y en a qu'un. Enfin, bref. Ne restons pas cloîtrés, le B ne fait pas le moine. Voici la chronique historique de Robin. Ah bah ça pue, ça...
Ah bah ça...
Écoute, ah bah les moines, ils bougent dans ton abbaye, là.
Non mais oui, mais du coup, elle est pas toute jeune, cette abbaye de Fontevraud, mais elle reste très belle, on dirait ma mamie.
C'est... Oh, c'est beau.
C'est beau. Bisous à ta mamie.
C'est ça, très bien. Elle a une tronche d'abbaye, elle va être contente.
Bon, heureusement, ma mamie n'a pas le même âge, puisque cette abbaye a plus de 900 ans. Normalement, autour de cette abbaye, vous la connaissez tous, mais est-ce que vous savez que c'était une ancienne prison et que maintenant, c'est un lieu de culture très actif?
Ah, c'est une... avant d'être une abbaye, c'était une prison?
Non.
Non, c'était une abbaye,
c'était
après une prison.
Puis prison, puis lieu de culture.
D'accord.
Donc, je vous ferai... Alors, elle a été fondée en 1101. Je vous ferai pas la blague de qu'est-ce qui s'est passé en 1111. Une date toute proche.
C'est les Huns qui... Ouais, c'est ça, la...
L'invasion des Huns.
L'invasion des Huns, ouais. C'est ça.
Non, mais...
Ah bah, c'est un CM2, hein, non, niveau...
j'essaie de suivre le niveau de cette émission.
C'est vrai, c'est bien. C'est bien, c'est bien.
Donc elle a été fondée par un moine itinérant, Robert d'Abrissel, à force d'appeler des fidèles à le rejoindre.
Ah, il a plusieurs... une place à Angers.
Ah ouais,
ouais. Bah, oui.
Robert d'Abrissel.
Ouais. Elle est connue. Hein.
Elle est connue, ouais.
Et oui, bah, en fait, il a invité des croyants de toute la région à le suivre, à fonder cette abbaye.
Une grosse fête, quoi.
Ouais.
Si ce n'est que, bon, à la fin, il n'y a pas de gueule de bois, puisqu'ils vont dans la vie monastique, qui est une vie de pauvreté, de pénitence et de travail. Bon, presque comme les étudiants, c'est la pauvreté,
c'est
le pénitence, et oui, bon,
le pénitence, ouais, comme tu veux, oui.
Et le travail, mais pas les lendemains de soirée.
Ouais.
En 1200, une femme qui serait jalouse de notre superbe Caro, donc bisous à Caro, vient de s'installer dans la...
Il essaie de placer des trucs, là. Hein. Ouais, je sais pas, elle est pas là. Ça faisait longtemps que t'étais pas venu, toi. Hein.
Non, mais
t'as pas de chance, elle est pas là ce soir. Couche, je te demande Pauline, si tu veux. Il y a Sonia aussi, si tu veux.
Ou Titouan.
Il y a Titouan, il a les cheveux longs, tu vois, c'est
avec
possible
plaisir,
aussi, sur un malentendu. Vas-y.
Non, oui, du coup, elle vient s'installer dans la ville. C'est la fameuse Aliénor d'Aquitaine. Elle y passe ses dernières années. Et c'est elle qui fait construire les tombeaux de sa famille, les gisants de Fontevraud, que vous connaissez sûrement. Oui, non.
Oui, bon, oui. Oui.
D'accord. Absolument.
Si, c'est ça. Elle y est, en fait, elle gît donc avec sa famille, elle avec un livre, parce que madame est bien cultivée. Richard Cœur de Lion, son fils et son mari.
Avec un camembert ?
Non. Non, une PlayStation. Ah oui, c'est vrai, Cœur de Lion, oui, t'as raison.
Ah oui.
Ça a mis du temps à monter, mais c'est vrai, ouais. T'as raison.
Et après, c'est moi qui fais des blagues de CM2.
Non, vas-y.
Mon Dieu. Non mais donc oui, ils sont à ses côtés. Par contre, ils ont l'air heureux en famille, mais ils se sont quand même fait la guerre en fait, hein, dans cette famille. Parce que moi, dans la famille, au pire, je passe les fêtes de fin d'année chez moi et pas chez eux. Non, eux, ils envoient 5000 hommes pour piller ton jardin et brûler ta baraque. Hein,
ouais.
Bon, chaque famille a ses histoires, dira-t-on. En 1792, voilà, c'est l'histoire où l'abbaye change un petit peu, puisqu'avec la Révolution française, etc., bah, en fait, c'est la fin de sa fonction religieuse. Tous les moines et les religieuses sont expulsés de l'abbaye, et elles sont remplacées par des bagnards. C'est moins pieux tout ça, et en 1804, Napoléon décide d'en faire une prison. 10 ans de travaux, et à la fin, ça accueille les premiers prisonniers. Fontevraud est alors considérée comme une des pires prisons de France, enfin une des plus dures, jusqu'à sa fermeture en 1963.
Oh, quand même.
Ouais. Ouais. Et non, mais il n'y a pas si vieux. Et puis, il y a surtout trois prisonniers qui ont très mal supporté cette piété qui venait du bâtiment, puisque trois prisonniers, messieurs Decker, Merlin et Damin, s'échappent le 15 juin 1955.
Histoire. Je m'en souviens.
C'est vrai, bah ouais, oui, bien sûr.
Je leur avais dit.
Merlin, bien sûr.
Mais ouais, et donc ils s'enfuient en plein après-midi. L'un des trois se brise la jambe en franchissant le mur. Ils sont plus que deux à courir vers leur liberté. Pendant 9 jours, les habitants paniquent. Ils appellent les gendarmes au moindre duo d'hommes un peu suspects qu'ils voient, sachant que les hommes étaient tout de même des tueurs. Hein. C'était pas des rigolos. Le 23 juin, les deux fuyards font la sieste à côté d'un champ. Le passage d'un paysan trouble leur repos, mais ils n'ont pas l'air de s'inquiéter. Parce que c'est pas parce qu'on a un bandit recherché par toute la région avec plusieurs centaines de policiers à nos trousses qu'on n'a pas le droit de se reposer.
C'est vrai. Effectivement.
Donc évidemment, le fermier appelle la gendarmerie, les gendarmes arrivent et les deux hommes se cachent, mais bon, les gendarmes ouvrent le feu puisqu'ils ont une arme. Les prisonniers ont une arme, les gendarmes aussi.
Ah oui, donc ça bastonne sévère.
Ouais,
là.
Bah, c'est un petit film d'action, quoi.
D'accord.
Bon, du coup, leur escapade s'arrête là. Le prix de leur liberté aurait été cher payé. Et le troisième camarade s'en sort pas forcément mieux parce que lui, il est pas mort, mais il a été sauvagement et longuement battu par les gardiens au point de se casser une nouvelle jambe.
Il avait déjà une jambe de cassée. C'est celui qui avait la jambe de cassée.
Ouais, c'est ça.
Donc il a la deuxième maintenant.
Il a la deuxième de cassée, okay. Un bras cassé et trois côtes.
Ah vache. C'est vrai. Et retour à Fontevraud.
Mais tout de même, il est passé à Angers, puisque les Angevins ont pu le voir en chair et en os, avec toutes les rumeurs qu'il y avait sur lui, avec son audience et son jugement devant le juge de Angers, avec donc une grande renommée.
D'accord. Il a une rue ou pas maintenant? Parce que apparemment, c'est...
Bah non, c'est si méchant ça...
On pas sûr qu'on nomme des rues à des tueurs et tout, parce que il a tué, selon les traditions, hein, des centaines de personnes, etc. Donc...
Ah oui, quand même. Les
paysans, ils grossissent un peu.
Ouais.
Ils venaient de Marseille, probablement.
Et du coup, maintenant, Fontevraud, c'est un peu plus calme.
C'est ça. 20 ans plus tard, en 1975, l'abbaye devient un centre culturel sous l'impulsion du président de la région de l'époque, monsieur Olivier Guichard. Aujourd'hui, entre Noël à Fontevraud, les concerts de Pâques, la saison d'été et d'automne sont autant de moments où ce patrimoine sublime accueille des événements qui nous transcendent. Emportés par les chœurs ou les instruments, nos esprits se perdent avec ceux des moines et des abbesses d'antan. Comme quoi, l'abbaye de Fontevraud, c'était quand même mieux après.
Ok, merci Robin. Un petit Graal pour continuer CMA. On nous a demandé ce qu'est la connerie. Bien, voici une définition, mais par l'exemple.
Question de Marlène, c'est quoi la connerie ?
Oh la, vaste sujet. Enfin, le plus simple est d'expliquer par l'exemple. Parlons d'un groupe d'éclaireurs de France. Non pas que tous les scouts soient cons, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ceux dont je parle ont la palme quand même. Nous sommes en 1992, et sans qu'on leur demande, et surtout sans autorisation, ils décident de nettoyer une grotte fermée au public. Bon déjà, il y a peut-être d'autres choses à nettoyer, dont leur chambre déjà. Cette grotte, c'est celle de Merrières, dans le Tarn. Les éclaireurs, pas vraiment éclairés, en ont donc lavé les parois taguées. Taguées, certes, mais par nos ancêtres. Ils ont en effet effacé des peintures de 15 000 ans. Cet endroit avait même été expressément interdit de dépollution. Voilà un bel exemple de connerie. Bravo. Les gars. C'était le Graal. Alors pendant le Graal, il est en train de regarder où c'était Fontevraud. Donc c'est sud-est de... Sud-est de Saumur, d'accord.
C'est la nationale qu'il faut prendre ou les petites routes?
Alors, on les écoute aux États-Unis par Spotify, donc effectivement, oui, Saumur, ça doit pas trop leur parler. Saumur. Saumur. Allez, c'est le moment tant redouté des chroniqueurs. Le résultat des votes des auditeurs sur leur chronique préférée dès l'émission précédente. Alors, à la précédente émission, on a eu les boutons, les plantes médicaments, les JO, le télescope, les œufs, les émoticônes et le sosocho. On est tous d'accord là-dessus, vous en souvenez? Alors qu'à la dernière émission, on avait eu une égalité. Il y avait deux personnes qu'on n'avait pas réussi à départager. Eh bien là, c'est à l'unanimité qui a été élu le CMA plus de la semaine. Et la gagnante, puisque c'est une femme, est Sonia. Ah. Effectivement, c'est le Soso Show qui, pour son retour, a fait carton plein, en particulier, selon les auditeurs, au moment où Soso n'a pas reconnu ses indices. Ils ont trouvé ça très drôle. Donc... Donc là, il y a eu un fou rire qui a réécouté donc sur le site radio-g.fr, rubrique Podcast Plus, puis CMA. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos chroniqueurs et queuses du soir. Merci Florian.
Merci.
Merci Titouan.
Merci.
Merci Robin.
Merci.
Merci Sonia.
Merci
Olivier. Et merci Pauline.
Merci.
On embrasse les autres chroniqueurs que nous entendrons bien sûr dans les prochaines émissions. On se retrouve même heure, même endroit dans 15 jours pour un nouveau numéro de CMA. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.